Drogue, contrôle, performance, soupçon.
De la gloire au scandale, comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Vincent Gianjoppi et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième épisode de la série « Les grandes entrevues » du balado de la chaire de recherche sur le sport responsable de l'Université de Sherbrooke intitulé « De la gloire au scandale ». Lors du premier épisode, on a eu la chance de discuter avec l'ancien journaliste de Radio-Canada, Robin Frozier. Je vous encourage fortement à écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. On parle en long et en large de géopolitique du sport, de certaines des affaires de dopage les plus importantes que Robert a couvertes dans sa carrière, ainsi que d'une multitude d'autres sujets. Cette semaine, on va concentrer un peu plus notre attention sur le monde du soccer féminin québécois. Alors, il y a à peine deux semaines, se terminait la première saison de l'histoire de la Super Ligue du Nord, championnat professionnel de soccer féminin du Canada, dans lequel évoluent bien sûr les Roses de Montréal. Dans cette lignée, aujourd'hui, on accueille nul autre qu'Andréane Gagné, ancienne joueuse de soccer de haut niveau et désormais directrice de la culture et des finances au sein des Roses de Montréal. Elle est avec nous en visioconférence. Bien, tout d'abord, Andréane, merci beaucoup pour ton temps et comment ça va?
Merci à vous pour l'invitation. Ça va très bien. Une grosse année, mais ça va très bien.
Oui, c'est ça. J'imagine que l'heure doit être pas mal au bilan en ce moment chez les Roses. Comment ça se passe?
Exactement, on est dans les peaufinements là, en fait de la fin de saison 2025, donc les bilans après saison, tant au niveau technique qu'administratif, opérationnel. Il y a également les évaluations annuelles, donc on est vraiment dans le bilan complet là, de l'organisation présentement.
Oui, tout se passe bien à date. Toi, tu n'es pas trop occupé de ton bord?
assez occupé. C'est ça, j'occupe le rôle au niveau des ressources humaines, culture et finances. Donc, évidemment, il y a les bilans aussi financiers qui s'en viennent en fin d'année. Donc, on ne se tourne pas les pouces, ça, c'est sûr.
j'en doute certainement pas. Alors, Andréane, on va commencer avec un petit récap de ton parcours sportif et professionnel en première partie. Et on va ensuite rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en parlant de cette saison inaugurale des Roses de Montréal, ainsi que du rôle que tu as joué, toi, au cours de celle-ci. Alors, Andréane, tu es originaire de Saint-Hyacinthe. C'est d'ailleurs là que tu joueras dans tes premiers clubs de soccer avant de gravir les échelons au niveau régional, provincial et même national. Tu prends la direction de Sherbrooke afin d'entamer tes études universitaires et, bien sûr, pour intégrer l'équipe de soccer du Vert et Or. Peux-tu nous dire un peu ce qui t'a attiré vers l'Université de Sherbrooke pour poursuivre ce parcours-là à moitié sportif et à moitié académique?
Oui. Bonne question, en fait, parce que à l'époque, en fait, j'étais au Centre national aussi de haute performance, encore sur les équipes nationales juniors, et la tendance était d'aller dans les universités américaines, donc qui l'est encore un peu aujourd'hui, mais peut-être un peu moins. Donc, j'avais eu quelques offres, j'avais été visiter quelques universités également qui étaient intéressées, qui avaient fait en fait l'offre de full scholarship. Mais j'ai décidé de rester au Québec principalement pour l'accréditation des crédits académiques. Donc, j'avais beaucoup de références aussi des joueuses un petit peu plus anciennes qui étaient revenues au Québec, qui avaient dû faire 2-3 années supplémentaires universitaires pour la reconnaissance des crédits. Donc, j'avais pas trop envie de trop poursuivre pendant 3-4 ans après mon cursus scolaire. Donc, j'ai décidé de rester ici. Puis Sherbrooke, en fait, ça représentait un beau défi sportif, bien que, puis dans le domaine que je voulais étudier, il y avait le programme, mais ça, c'était à l'époque avec José Bélanger, il commençait à avoir des joueuses quand même d'envergure avec qui je côtoyais évidemment avec le semi-professionnel déjà. Donc, ça a été un peu plus naturel de faire partie de ce projet-là, puis d'emmener, dans le fond, l'équipe se classait toujours dans les quatre premières, mais l'objectif était vraiment d'emmener l'équipe là, justement à un championnat universitaire canadien. On a 5 ans à jouer, là, donc éventuellement, ben, au bout des 5 ans, finalement, on a réussi. Donc, on parle de José Bélanger, mais il y en a eu d'autres, Marie-Émilie Perrault-Maurier qui joue aussi sur les équipes nationales. Il y a des filles également de Sherbrooke de très, très, très bonne qualité. Donc, on avait un beau groupe, un beau noyau qui a suivi pendant les 4-5 années. Donc, ça a été vraiment élément déclencheur pour choisir le projet sportif avant le projet académique pour l'Université de Sherbrooke.
Ah ben, ce sont d'excellentes raisons. Et effectivement, ben, ton pari a quand même payé parce que, comme tu le dis, vous avez notamment été championne québécoise en 2012, chose qui n'arrive pas très, très souvent à l'Université de Sherbrooke, là, du moins ces temps-ci. Et ouais, tu as un palmarès qui parle de lui-même. Là, en 4 saisons avec le Vert et Or, tu as été 4 fois sur l'équipe d'étoiles, soit québécoise, soit canadienne, soit les deux. Tu as été capitaine du Vert et Or, entre autres. Et toute cette expérience-là, en ajoutant ça aux expériences précédentes que tu avais eues, ben ça va te permettre d'atteindre certains des plus hauts niveaux du soccer au Canada à l'époque. Je pense notamment à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2008 au Chili, ou encore 2 fois là, les Universiades en 2009 en Serbie et en 2011 en Chine. Peux-tu nous parler un petit peu de ces expériences-là?
Oui, avec la Coupe du monde, c'est des moins de 20, effectivement, au Chili. Donc, j'étais à mon entrée là, universitaire. Justement, j'ai fait une demi-session là, pour pouvoir participer à la Coupe du monde. Écoute, c'est une expérience Coupe du monde, là, dans le sens que c'est très, très international. Il y a beaucoup, le niveau il est excellent. J'avais un rôle aussi, comment je pourrais dire, en fait. Moi, j'avais décidé de faire mes études ici, donc je n'étais pas nécessairement aux États-Unis. Donc, j'avais eu un préparateur physique à côté pour faire l'équipe, en fait, pour pouvoir faire le camp. Puis, on m'a sélectionné peut-être au mois de septembre. La Coupe du monde était au mois de novembre, décembre, dans ce coin-là.
OK.
Donc, wow. Donc j'ai dû quand même faire mes preuves, mais c'est une expérience incroyable. Le niveau, le professionnalisme, même si on est jeune, t'sais, l'environnement aussi, c'était un premier gros événement d'envergure là, ben, international que je participais à ce moment-là. Donc, ça a été une expérience quand même assez incroyable. On n'a pas fait plus loin que la phase de qualification. On avait trois gros matchs, là, l'Allemagne, de mémoire, Nigeria, puis une autre équipe là, que l'équipe m'échappe.
Oui, vous étiez vraiment dans un groupe de la mort, je me souviens.
Oui, on était quand même un bon groupe. Mais pour toute l'expérience, puis ben, c'est un aboutissement aussi là, quand on commence à jouer au soccer, puis on gravit un peu les échelons, ben, c'est sûr que des Coupes du monde ou des événements internationaux comme ça, des championnats internationaux, c'est un peu la cerise là, pour laquelle tu as travaillé durant plusieurs années. Donc, évidemment, tu y prends goût. c'est ça
genre
le truc.
Pas.
Donc, avec les U20, ça s'est déroulé comme ça. Puis ensuite, les deux universiades, justement, c'est un élément positif de rester aussi dans le réseau canadien-québécois. Donc,
oui.
Maintenant, la formule a changé. Là, c'est plus l'équipe universitaire, je pense, qui gagne le championnat canadien universitaire qui va au FISU Games. Mais maintenant, avant, c'était comme un regroupement des meilleurs athlètes universitaires canadiennes qui faisaient une équipe. Donc, on s'entraînait pas beaucoup à l'avance, je dois te dire. On avait peut-être un camp de l'Est, un camp de l'Ouest, puis un camp juste avant de partir pour l'événement.
OK, alors la formule a changé, c'est-à-dire que c'est plus une genre de super équipe où est-ce qu'ils prennent tous les meilleurs éléments des différentes équipes universitaires?
Maintenant, c'est les équipes, c'est ça qui... Je pense qu'ils gagnent les championnats canadiens. Je sais que l'Université Laval est allée récemment, donc ça aurait du sens là, que ça soit comme l'équipe qui représente le Canada. Puis ce qui est particulier, c'est que nous, au Canada, c'est un regroupement des athlètes universitaires, mais par exemple, quand on est allé jouer en Serbie, on jouait contre l'équipe nationale de France, mais les moins de 20. Donc, tu sais, le niveau, il est quand même... C'est un regroupement très fort, on va se dire.
Ah, ben
donc,
oui.
c'est pas la même sélection de selon les pays. Puis, les États-Unis, évidemment, n'étaient pas dans cette compétition, étant donné le NCAA qui était jugé un peu trop fort là, pour faire un regroupement comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la formule a changé là, pour essayer d'équilibrer un peu plus le championnat. Mais malgré tout, c'est ça, 2 fois, une fois en Serbie en 2009, puis une fois en Chine à Shenzhen en 2011. Les deux, encore une fois, c'était une expérience plus... Je ne suis pas allée aux Jeux olympiques, malheureusement, mais c'est une expérience quand même plus olympique dans le sens que tu as tous les sports de tous les pays. Puis en tant que nombre, il y a plus d'athlètes que les Jeux olympiques. Donc, tu vis dans un village d'athlètes, tu manges, puis t'es vraiment, c'est ça, tu côtoies aussi plusieurs nationalités en même temps, plusieurs sports. Donc, c'est ça qui rend l'expérience vraiment plus, agréable, dans le sens que tu te concentres sur ton tournoi, mais tu as aussi la chance d'aller supporter d'autres équipes du Canada dans d'autres sports. Puis dans les deux cas, je pense qu'on a quand même figuré pas sur le podium dans les 4, 5, 6 premiers, ce qui était quand même très bien là, pour un regroupement, je veux pas dire dernière minute, mais on n'avait pas beaucoup de matchs tout ensemble là, avant les grands départs. Là, donc, oui. C'était super intéressant, puis super formateur, puis c'est un réseautage aussi, on va en parler peut-être plus tard au niveau du professionnalisme, mais autant dans l'équipe que le réseautage avec d'autres pays, des échanges. Donc, puis moi, j'étudie en relations internationales, politique, donc je trouvais ça, le sport et la politique, je trouve que c'est un très beau lien. Donc, j'avais un peu cette analyse-là là, quand je suis allée dans ces deux pays.
Mais écoute, tu parles à la bonne personne là, en termes de politique et sport, parce que moi aussi, j'ai effectué un bac en politique appliquée, cheminement relations internationales à l'Université de Sherbrooke. Et par rapport à ce bac-là, c'était quoi un peu tes objectifs professionnels à l'époque?
Oui. En fait, c'était pas nécessairement de travailler dans le sport, je dois te dire, mais j'étais beaucoup intéressée par la diplomatie internationale. Donc, les relations internationales, un peu comme je pense la majorité des gens peut-être qui vont dans ce programme-là, l'ONU, tous les organismes internationaux qui peuvent
effectivement
lier à, pas nécessairement les crises humanitaires, là, mais pour essayer de faire ce changement-là ou de donc les ambassades, des choses comme ça. Puis au fil du temps, c'est ça le vecteur sport de haut niveau, mais même sport tout court et politique, c'est comme un peu entremêlé. Donc, puis il y a toujours l'aspect international qui m'intéresse, mais oui, donc c'était vraiment pour ça. Puis j'avais en fait, c'était un cours au cégep. Au départ, j'allais en administration finance, puis au cégep, j'avais eu des cours, un cursus sur la politique, géopolitique justement, puis ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'ai juste décidé d'appliquer à l'Université de Sherbrooke. Puis, mais quand je suis rentrée en admin pour faire des crédits parce que j'avais manqué une moitié de session à cause de la Coupe du Monde, mais la session d'après, là, je suis rentrée dans le programme à temps plein.
Et ça, d'ailleurs, cette genre de moitié de session-là que tu as manqué, j'ai cru comprendre que c'était pas un très gros sacrifice à faire et que c'est quelque chose non. que tu aurais refait sans l'ombre d'un doute.
Non, exactement. Oui. C'est sûr. J'avais parlé à la responsable des sports, le Brenda, la Liberté, à ce moment-là. Puis j'avais joué, il me semble, la saison aussi. Donc, c'est sûr que en fait, la particularité, c'était plus que je perdais une année d'éligibilité. Donc, c'était sûr que c'était parce que j'avais déjà joué puis je n'étais pas dans nécessairement un programme complet. Mais je pense que l'université a été très... juste le mot en anglais, mais il y a eu beaucoup un support de leur part aussi par rapport à ça, puis à mon retour également. Là, donc je n'avais pas des sessions, des grosses sessions là, durant cette année-là, mais ça m'a permis de représenter aussi l'université sur la scène internationale.
Ah, mais c'est quand même pas mal. Hein? Ouais. et ensuite, ouais. Après tes études, Andréane, tu es quand même demeurée dans le milieu du soccer en entraînant notamment des équipes, je pense, U15-3A, en devenant entraîneur adjoint des Stingers de Concordia pendant une saison, et également en fondant ta propre académie de futsal qui s'appelait anciennement l'Académie Andréane Gagné, maintenant l'Académie Excellence IBAG, c'est bien ça?
Oui,
ouais.
IBAG, oui.
IBAG, parfait. Donc, voilà, une école de futsal à Saint-Hyacinthe. Comment tu as vécu ça, toi, cette transition-là du terrain vers le banc de touche, si on peut appeler ça comme ça?
Oui. En fait, moi, en fait, on joue beaucoup, puis un certain âge, je ne sais pas si âgé, mais je commençais déjà à vouloir un peu redonner, à Saint-Hyacinthe, la région pour laquelle qui m'avait formé, mais également d'aller chercher des licences d'entraîneur, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, j'étais encore à l'université, ce que je faisais, le coaching, ça m'intéressait. D'ailleurs, je fais une petite anecdote, mais... quand j'étais en Chine, je me suis déchiré mon croisé, la fameuse blessure. Puis j'étais allée rejoindre l'équipe universitaire du Varior en Californie parce que cette année-là, on avait un pré-camp en Californie. Mais j'étais blessée, évidemment. Donc, quand on est revenu, ça a été la grève là, du personnel de l'UDS. Donc, il y avait une grève, donc les coachs ne pouvaient pas coacher. J'ai un peu pris la relève par la bande.
En tant que capitaine à l'époque.
Ouais, puis ben, finalement, dans le fond, je me suis mis à coacher l'équipe là, avec l'aide, de, évidemment, là, ben, José était là, Elise Turcotte également, qui m'aidait à... qui étaient des joueuses, mais qui aidaient aussi à la cohésion du groupe pour faire les entraînements. Donc, j'ai coaché la saison automnale jusqu'à ce que la grève finisse.
Ah ouais!
Donc, ça a été une belle expérience. J'étais très proche des joueuses, évidemment, mais pour ramener justement, on s'est rendu en finale. Donc, on a quand même eu une bonne saison. Et encore une fois, à cause du noyau puis des éléments qu'on avait également. Puis, c'est sûr que les coachs n'étaient pas très loin. Là, on s'envoyait des textos ou des appels avant et après chaque match. Mais puis, tout ça, ça m'a permis. Je coachais aussi des programmes régionaux. Donc, je voulais rester un peu dans cet environnement. Donc, j'ai fait mes licences d'entraîneur jusqu'à la licence, ben là, maintenant c'est diplôme B, pour voir où ça pouvait m'emmener, pour me laisser, je te dirais, un peu des portes ouvertes, savoir, tu sais, puis c'est un autre sujet, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs féminins, donc c'est sûr que les opportunités, il y en avait un peu plus à ce moment-là, mais c'est ça, de rester dans le niveau quand même de performance, je te dirais, parce que ben, c'est un peu ça que j'ai connu, puis je pense que c'est ça que je t'allais d'enseigner. Puis l'académie, c'était vraiment fondé au départ pour les jeunes filles en futsal. Il y a une grande lacune technique là, chez les jeunes filles, là, peut-être par physiologie ou bref, la technique, c'est des filles super intelligentes, mais au niveau technique, il manque quand même un petit gap là, comparé aux garçons. Donc, c'est un peu pour ça que j'avais mis sur pied cette académie. Puis mon mari s'est joint à moi, c'est pour ça qu'on a changé le nom, parce que c'était aussi populaire avec les garçons. Là, donc, lui aussi est très, très impliqué là, dans le soccer. Donc, on a mergé tout ça ensemble pour faire filles et garçons. On a fait des petites compétitions justement là, contre justement à tout soccer qui est en Estrie. On faisait des petits tournois comme ça, mais c'est super agréable. Puis là, la COVID en fait est arrivée, donc les locations de plateaux de gymnase, etc., c'est un petit peu plus compliqué avec les mesures sanitaires. Mais on continue quand même, je dirais, un peu à temps perdu là, de faire des entraînements soit de groupe ou privé là, pour filles et garçons. Maintenant, on avait un range d'âge plus jeune, de 9 à 12 ans, mais maintenant, ça peut aller jusqu'à même ceux qui jouent semi-pro, là, des fois. Là, donc,
okay. C'est intéressant. Wow. Ouais. Ben oui, puis tu parles de l'aspect technique du soccer qui, selon toi, manque un petit peu chez les filles. Ben, le futsal, c'est vraiment comme le sport parfait pour remédier à ça.
Exact. Ouais. Puis à ce moment-là, j'ai fait partie aussi de l'équipe du Québec de futsal. Ça commençait aussi au Québec à y créer, en fait. On ne connaissait pas tant ça ici au Québec. C'est sûr qu'ailleurs, dans d'autres pays sud-américains, ça existe depuis des années, mais ça a commencé aussi ici. Donc, le mot était de plus en plus populaire. Puis maintenant, tu vois, les programmes parascolaires, c'est futsal. C'est plus... avant, on disait soccer intérieur, mais... maintenant, c'est futsal, donc ça l'a aidé aussi à faire cette petite émergence.
Et j'imagine que ça permet de remédier aux hivers québécois où est-ce qu'on ne peut pas nécessairement jouer au soccer à l'année longue?
Exact, mais je pense que c'est une belle complémentarité, justement. C'est un espace plus petit. Oui, la technique est de mise, mais de jouer dans différentes aussi situations, après, c'est juste de le reporter dans un plus grand espace. Mais c'est effectivement, les terrains couverts sont très coûteux aussi pour des organisations. Donc, des fois, c'est peut-être ou faire un mix des deux. Là, je pense que c'est très, très complémentaire.
Et ensuite de ça, Andréane, tu es passé, bon, tout d'abord du terrain au banc de touche et ensuite du banc de touche un peu plus vers les bureaux administratifs. Tu as travaillé pendant presque 6 ans pour la firme de gestion de patrimoine Blue Bridge à titre de responsable du développement de la clientèle sportive. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consistait ce poste?
Chez Blue Bridge, ben c'est ça, c'est un gestionnaire de patrimoine. Dans le fond, à la base, c'était pour, ben à la base, c'est pour les clients fortunés, là, donc ceux qui ont des grands portefeuilles. Puis, à mon arrivée, il y avait une fondation, en fait, qui était liée avec la Fondation d'Athlètes Excellence du Québec, qui est une fondation qui remet des bourses là, pour les jeunes dans le sport, dont moi-même, j'étais boursière, ça fait un peu trop longtemps, donc je ne dirais pas l'année. Mais puis, bref, de fil en aiguille, on s'est mis à un peu brainstormer sur comment que des athlètes, parce que des athlètes professionnels, bon, oui, il y en a qui ont un certain grand portefeuille, mais il y a beaucoup aussi d'athlètes amateurs qu'on qualifie comme des Olympiens ou des athlètes qui représentent justement le Canada aux Jeux olympiques. Comment qu'on peut les aider, ces athlètes-là, dans un avec un outil fiscal. Puis, on avait la chance, évidemment, d'avoir des contacts. Là. Quand on parle de contacts, c'est important. Mais il y avait, à l'époque, M. Serge Bilodeau, qui est le père d'Alexandre Bilodeau, le champion
du monde. Acrobatique, oui.
Exact. Donc on a commencé par une conférence sur la fiducie d'athlètes amateurs. Puis tout ce que ça engendrait. Donc, nous, on promouvait un peu cet outil fiscal-là. Dans le fond, la fiducie d'athlète, c'est un peu comme je vais expliquer, c'est un peu théorique, là, mais c'est un peu comme un REER, donc, sauf que c'est spécifique aux athlètes. Donc, pendant toute la carrière sportive, tout ce qui est revenu de performance, commandite, les athlètes peuvent déposer ça dans cette fiducie.
Mm-hmm.
Puis évidemment, après la carrière sportive, je ne sais pas, si mettons, on le met sur un horizon de 10 ans, par la suite, ils commencent à ils ont 8 ans pour le sortir de cette fiducie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça fonctionne un peu comme un REER. Techniquement, c'est dégressif, ils ont moins de revenus après. Après, ça dépend toujours de la carrière qu'ils font par la suite, là, mais c'était un moyen aussi pour eux d'économiser, d'épargner, parce qu'on sait, tu sais, ça aussi, c'est un autre sujet sensible, mais les après-carrières aussi peuvent être difficiles. Donc, le temps qu'ils se retournent aux études ou qu'ils veulent s'acheter une maison, etc. Donc, cet argent-là était placé aussi avec, justement, avec tous les fonds de portefeuille qu'on avait. Tu sais, on avait un plus grand range d'atteinte d'objectifs avec des performances plus grandes que peut-être une banque normale. Donc, j'ai été un peu la gestionnaire. C'est pas moi qui gérais les portefeuilles, mais j'étais un peu l'intermédiaire entre les agents, les athlètes, nos équipes à l'interne. Donc, ça a été très, très formateur. Puis, justement, tu sais, ce réseau de contacts-là s'est élargi de plus en plus. Puis, j'ai comme besoin un peu de ce côté administratif-là. Donc, j'aimais ça toucher au monde athlète professionnel et amateur. Et aussi de pouvoir le refléter là, au niveau plus, je vais dire administratif, là, mais plus tangible. Ouais.
Et j'imagine que, bon, on prend ta carrière de joueuse, on prend ta carrière d'entraîneuse, on rajoute à ça ton expérience au sein de Blue Bridge, ainsi que d'autres occupations que tu as occupées comme directrice générale du club de soccer de la Vallée du Richelieu, directrice générale et gestionnaire de projet pour l'OBNL Axis, c'est ça le centre médico-sportif. On rajoute tout ça ensemble et ça fait vraiment un beau portfolio qui a fait en sorte que tu as eu des discussions avec Annie Larouche, directrice générale des Roses de Montréal. Présidente, oui. Pardon. Oui, c'est vrai, effectivement. Et oui, Annie Larouche, qui est vraiment une figure proéminente là, du sport québécois, et ce, tout genre confondu, qui a été dans l'organisation des Alouettes de Montréal pendant 25 ans, qui a grandement aidé à la fondation de l'Alliance de Montréal et qui a pris l'initiative de fonder les Roses de Montréal. Peux-tu me parler un peu de comment tu es rentré en contact avec elle et pour éventuellement avoir le poste que tu occupes actuellement?
Oui. Oui, effectivement, là, Annie, c'est une figure emblématique dans le sport féminin et masculin, là, donc tout sport confondu. En fait, quand ils ont fait l'annonce, moi j'étais pas dans les coulisses là, donc tu sais, j'ai appris la nouvelle comme tout le monde quand ils ont fait l'annonce d'avoir qu'il allait avoir une équipe à Montréal dans cette Super League du Nord. Donc j'ai juste pris contact avec elle par les réseaux professionnels.
Okay.
J'ai un peu tenté ma chance avec, mon CV sportif, mais tu sais, je pense que de mettre ces deux femmes-là, il y a aussi Marnette Pichon qui est la directrice sportive, ces deux femmes quand même de tête, puis avec tout le bagage qu'elles ont de l'avant, je trouvais ça, tu sais, fantastique. Donc, je m'attendais pas, je voulais juste en premier lieu les féliciter de cette annonce puis de cette initiative-là. Je pense qu'ils ont fait partie aussi, c'est sûr qu'on a deux copropriétaires, mais ils ont fait partie aussi des prémices, des discussions pour fonder l'équipe. Donc, au départ, c'était comme un message de félicitations, puis qu'on en avait grandement besoin. Puis j'ai comme un peu, expliquer brièvement que, tu sais, moi, je l'avais vécu, mais à un autre niveau, puis que finalement, tu sais, ça l'arrive. Puis de fil en aiguille, j'ai eu un premier appel là, en Teams avec Annie. Donc, elle m'avait. Puis c'était au début, tout début, ils venaient d'annoncer l'équipe, là, donc il y avait peut-être un ou deux employés déjà qui étaient là, mais il n'y avait pas eu d'ouverture de poste, il n'y avait pas tant d'un organigramme là, qui était fixe. Donc, elle m'a dit un peu ce qu'il recherchait comme poste là, pour construire un peu la base de cet organigramme. Mm-hmm. Donc, il y avait plusieurs postes là, qui me rejoignaient, mais donc finalement, il y avait aussi d'être l'adjointe à la direction sportive. C'était quelque chose qui était aussi un peu dans mes cordes là, avec tout le recrutement puis monter cette équipe-là. Donc, j'ai rencontré Marinette. Première fois, une légende française quand même du football, donc dans un café pour discuter un peu. Puis ce que j'ai aimé, c'est une approche très humaine. C'est pas juste de dire OK, t'es-tu qualifié pour le poste, mais
ouais.
Je pense qu'on veut. Puis c'est un peu ça la culture au sein des Roses, mais c'est un peu d'apprendre derrière l'individu, puis de voir aussi si la personnalité concorde avec qu'est-ce qu'on veut transmettre.
Bien sûr.
Parce que veux pas maintenant, c'est une image de marque qui doit être véhiculée par tous les employés, les joueurs, etc. Donc, ça avait super bien passé. Finalement, pour ce rôle-là, t'sais, j'ai une famille aussi, des jeunes enfants, donc c'était peut-être pas l'idéal là, de partir, bien que ça aurait été super intéressant, mais de partir faire du scouting dans des Coupes du Monde, etc., là, je pense que c'était pas réaliste. Donc, j'ai re-rencontré Annie, puis finalement, ça a abouti au poste de direction, directrice culture et finance. Qui jonglait des expériences que j'avais eues dans le passé, mais aussi qui me permet un peu dans ce rôle-là d'être un peu un intermédiaire entre les départements. Donc, j'ai collaboré beaucoup avec la direction sportive, évidemment, pour les contrats de joueuses, tout ce qui est... c'est drôle parce que... tout ce qui est antidopage, donc c'est ce là de... le diplôme d'études supérieures, justement, va m'avoir permis d'être... d'avoir un peu cette corde-là à mon arc. Fait qu'évidemment, c'est sous mon poste. Mais tu sais, de s'assurer, tu sais, beaucoup de conformité, fait que beaucoup de collaboration avec les différents départements. Donc, au final, je peux toucher un peu à tout. Puis c'est ce qui je pense, qui est très, très motivant là, dans ce poste-là.
Bon, ben t'as partiellement répondu à ma prochaine question. C'était plutôt de savoir de quelle manière ce poste-là de directrice de la culture et des finances est similaire à certains des emplois que tu as occupés précédemment et de quelle manière il est différent, peut-être des choses que tu as dû apprendre au cours de la dernière année.
Ben je peux faire un complément d'information. En fait, il y a deux pans là, à ce poste-là. Donc, culture qui est plus toute ressources humaines. Donc, c'est tout... Il faut savoir aussi que la Ligue est nouvelle. Elle n'est plus maintenant, ça fait un an, mais elle était nouvelle aussi. Donc, tout mettre en place, il y a beaucoup de procédures, d'établir vraiment les bases pour pouvoir aller en première année selon ce que la Ligue veut, selon ce que le club veut. Donc, autant dans l'embauche que dans le recrutement, que dans les procédures internes, que dans les guides d'employés, tu sais, ça va vraiment assez large, tout ça. Puis de l'implantation aussi d'un système, ça peut paraître un peu obsolète, mais un système d'intégration de paye là, qu'il n'y avait pas au début parce qu'il était juste deux. Là, donc, puis dans le sport, ça va vraiment, vraiment vite. Donc la saison, on était embauchés la majorité en septembre 2024, puis la saison commençait, les filles arrivaient en février 2025. Là, donc, les joueuses, en fait, quand je dis les filles, les joueuses arrivaient en février 2025. Donc, il y a eu tout ça, le RH... Et beaucoup, c'est avec le contractuel. Donc, tous les contrats des joueurs en collaboration avec la direction sportive. Puis, il y a aussi le pan finance, donc s'assurer que les états financiers, tu sais, en fait, moi, je fais plus un overview de tout ça. Là. On a une contrôleur à l'interne, mais les budgets sont respectés. On a aussi des caps salariales à respecter. Donc, vraiment beaucoup de conformité avec tout ce que la Ligue nous donne, puis s'assurer qu'on concorde, on a des assurances aussi collectives, mais il y a des assurances pour joueuses. Donc, il y a vraiment beaucoup de tentacules à tout ça. Puis, ça fait juste prendre l'expansion. Ça l'a pris, en fait, de l'expansion de mois en mois. Donc, c'est super intéressant. Puis, peut-être, pour faire ce que j'ai appris le plus, c'est que c'est une nouvelle ligue, c'est un nouveau club. Sauf qu'avec l'expérience, je pense que l'expérience de joueuse m'aide beaucoup à essayer de comprendre aussi comment ils se sentent, là, ces joueuses-là, quand ils arrivent à Montréal. Mais je pense que c'est plus facile pour moi de mettre des choses en application parce que je l'ai vécu dans un certain sens, là, pas à ce niveau-là, évidemment, parce qu'on n'avait pas les mêmes infrastructures. Mais puis, en fait, de mettre ce que moi, je n'ai pas vécu à profit de ce club-là, puis de dire, d'emmener peut-être des idées, de dire, ah, ben, est-ce qu'on est rendu là aussi dans le processus, parce qu'on ne veut pas tout lancer en même temps non plus. Donc, je pense que c'est ça, je pense que c'est une belle combinaison, que ce soit professionnel, sportif, personnel, à voir, c'est ça, dans les prochaines années, tu sais, jusqu'à où qu'on peut emmener ce club. Dans une ligue qui est beaucoup plus structurée ou en tout cas qui a les reins plus solides que les autres ligues qu'on a vécues semi-professionnelles avant.
Ben oui, j'ai fait quelques recherches là, sur la Super League du Nord et il y a quelques statistiques qui m'ont vraiment agréablement surprise. Là, je pense notamment au fait que déjà sa première saison, cette ligue-là a représenté l'une des 5 plus grandes affluences de ligue féminine de soccer professionnelle au monde. Oui. Au monde. Oui. Wow! Oui.
Et
ouais, vraiment, une quantité industrielle de joueuses qui proviennent du Québec, du Canada, vous en avez plusieurs au sein des Ronces de Montréal. Il y a déjà le plan d'expansion d'une 7e équipe en 2027. Bon, les joueuses québécoises canadiennes, certaines qui vont même pouvoir évoluer avec l'équipe nationale canadienne. Donc, sérieusement, chapeau aux Roses de Montréal et chapeau à la Super League du Nord qui semble vraiment avoir été bâtie sur des bases solides. Et bon, on va suivre avec grand intérêt cette expansion-là au cours des prochaines années. Toi, de ton bord, Andréanne, la saison des Roses vient de se terminer. De ton point de vue administratif, est-ce qu'il y a certains éléments que tu considères comme tes plus grandes réussites de la saison et peut-être aussi certains points sur lesquels tu juges que tu pourras continuer à construire au cours des saisons suivantes?
Oui, ben en fait, ben c'est ça, c'est de la mise en place de cette grosse structure dans le peu de temps qu'on avait. Je pense que ben, c'est un travail d'équipe, là, bien que oui, on a chacun nos départements, mais on travaille on est tout interrelié par X ou nombre de dossiers. Donc, je pense que ce travail collectif pour amener un projet d'une telle envergure à point au bon moment, je pense que c'est un gros... Un bel accomplissement, là, de mon côté, mais je pense que de l'équipe au complet. Puis c'est ça, tu l'as dit, je pense que cette ligue-là est arrivée à un moment qui devait être arrivé dans tout le mouvement du sport féminin, mais qui aurait peut-être dû arriver il y a quelques années déjà. Mais bon, chaque chose en son temps, puis on veut juste s'assurer que la pérennité de la ligue reste là, mais ça reste que c'est une belle plateforme pour justement les joueuses québécoises ou les joueuses canadiennes qui vont pas nécessairement aux États-Unis pour étudier, qui vont pas nécessairement s'exiler pour de continuer à jouer ici au Canada puis de se faire voir quand même sur la scène internationale.
Qui suivent un peu dans tes pas, en fait.
Exact, exact. Puis que ça soit moins compliqué, en fait, que tu sais, le chemin soit moins... qu'il soit plus straightforward que d'aller à gauche et à droite puis après de pouvoir percer. C'est très, très difficile, là, même encore. Tu sais, oui, il y a eu certaines joueuses de la Ligue qui sont allées avec des camps d'équipe nationale, pas juste canadiennes, évidemment, mais il y en a qui ont d'autres nationalités. Mais tout ça fait en sorte que ça montre le sérieux de la Ligue, ça montre le niveau aussi que cette Ligue veut atteindre. Puis d'attirer des internationaux, ben, c'est un peu comme la MLS, là, pour ne pas se comparer, mais ça prend un certain temps, puis avoir cette notoriété, puis je pense que c'est bien parti pour l'avoir si on continue sur les mêmes. Effectivement, 2027, une équipe d'expansion est prévue. Je ne sais pas jusqu'à combien ils veulent aller, mais je pense que c'est à chaque 2 ans, il y a une nouvelle équipe qui s'ajoute canadienne, parce qu'évidemment, à un moment donné, on va avoir un quota d'arrivée. Je pense que ça va juste promouvoir aussi d'autres talents de d'autres provinces. Le recrutement, c'est un gros, d'après moi, un gros problème dans le sens que il y a tellement de jeunes filles qui jouent au soccer, même au Québec, qu'on ne peut pas toutes les voir partout. Là, donc, ça leur permet d'élargir un peu plus ce bassin puis d'établir une structure plus canadienne avec cette Super League. Puis à travailler, en fait, ben, on est déjà, évidemment, on est déjà en planification de 2026.
Oui, la Coupe du Monde.
C'est, Oui, exact. Mais oui, ah. Coupe du Monde, mais notre saison aussi, ah, bien 2026. Sûr, mais oui, c'est, mais la Coupe du Monde masculine qui va avoir lieu Canada, États-Unis, Mexique va également avoir cet engouement-là. Pas nécessairement pour le soccer féminin, mais je pense qu'il y a une belle vitrine là, quand même de populariser ce sport sur notre continent. On va se dire que si on va en Europe, c'est clairement différent. Donc, ça va venir avec le temps, mais déjà qu'il y a une belle structure, puis pour l'année prochaine, bien, c'est juste d'avoir, tu sais, encore une fois, une équipe compétitive, tu sais, de viser. Les objectifs des Roses sont très, très hauts là, chaque année. Là, donc, c'est toujours de viser l'excellence, puis de peut-être peaufiner certains petits trucs à l'interne là, pour, tu sais, on a l'environnement très, très professionnel, mais de peaufiner, tu sais, certaines choses qui ont moins bien fonctionné cette année pour pas que ça revienne l'année prochaine. Donc, ça sert un peu à ça, notre post-mortem là, pour nos bilans, puis de s'améliorer, puis de viser, surtout d'avoir du monde dans le stade. Je pense que c'est notre plus gros objectif là, de remplir le stade idéalement à chaque match, mais le plus de matchs possible pour créer cet engouement-là encore plus fort.
Oui, c'est quelque chose que vous avez quand même bien réussi au cours de la saison. Là, je crois qu'il y avait une moyenne d'environ 3300 personnes là, qui venaient voir chaque match. Ça a été plus de 1,7 million de téléspectateurs cumulés durant la saison. 45 000 billets vendus, donc visiblement, ça se passe très bien là, pour
beaucoup,
le moment.
Mais c'est encore des objectifs qu'on va atteindre pour l'année prochaine. Puis les plateformes, la Ligue a également établi un partenariat où ça s'en vient avec des plateformes numériques comme YouTube, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça nous fait encore plus de visibilité, pas juste au Canada, mais partout au monde. Donc, on en parle souvent, mais les médias puis la visibilité est très, très, très importante. Là, donc si les gens qui nous écoutent veulent venir voir les Roses l'été prochain, il va y avoir de la place pour les matchs. On a 13 matchs à domicile l'année prochaine, donc ça vous donne un match de plus à venir voir.
Ben, je chapeaute ce message dans son entièreté. Andréane, un peu plus tôt, tu parlais de la montée en puissance du sport et du soccer féminin au Canada. J'ai constaté qu'en parallèle de ton poste comme directrice de la culture et des finances, tu travaillais également comme facilitatrice pour l'OBNL Égal Action. Tu peux-tu nous parler un peu de cet organisme-là et de son lien qu'il a avec les Roses?
En fait, c'est pas relié directement avec les Roses, mais non. En fait, moi, Égal Action, c'est un organisme qui lutte pour l'égalité, l'équité des genres dans le sport, donc dans tous les sports confondus. Donc, oui, c'est sûr qu'on parle beaucoup de la place des femmes dans le sport, mais on parle aussi de la mixité. Donc, il y a différents sujets pour emmener ce professionnalisme-là aussi dans le sport. Puis, ils ont différentes formations, conférences, il y a des accompagnements aussi avec des organismes sportifs. Donc, pour des projets vraiment, c'est ça, équité et égalité dans le sport. Puis, il y a des programmes aussi de formation pour justement les leaderships féminins, donc d'autres particularités comme ça. Puis, en fait, Égal Action, ça fait 2-3 ans là, que je suis une formatrice, puis je suis aussi des formations, mais je suis facilitatrice pour ça s'appelle le défi même jeu. Donc, on a chacun, on est plusieurs qui sont externes à Égal Action, qui donnent soit des formations ou qui lead un peu un programme comme le défi même jeu, que le but, c'est justement d'avoir un projet, de les accompagner dans un projet pour l'équité des genres dans leur organisation sportive. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout sport confondu. Ce n'est pas nécessairement juste le soccer, malgré qu'il y a beaucoup de clubs de soccer qui s'inscrivent, mais c'est tout sport confondu. Donc, c'est super intéressant de voir les difficultés, un peu les défis de chaque organisation. Puis le but, c'est de leur donner des outils, soit par de la littérature ou soit par de relire des plans d'action. Donc, de les accompagner un peu pour que ces projets-là viennent à terme. Souvent, les projets en équité des genres, en fait, c'est souvent... dans les organisations sportives, c'est souvent travailler rapidement, puis après, on n'a pas le temps, il n'y a pas assez de ressources. Donc, on veut juste s'assurer de les aider le plus possible pour que ce projet-là ait lieu. Donc, c'est un peu parallèle aux Roses, mais ça vient un peu aussi, c'est sûr, Égal Action, Filles Actives, c'est des organisations qui sont très reliées au mouvement du sport féminin. Donc, sans être partenaire direct, je pense que c'est une mission qu'on partage.
C'est ça, parce que j'avais également constaté que Annie Larouche avait remporté un prix alloué au...
Exactement, à ce gala, le gala des Galaxiens, exactement. Donc, tu sais, ça souligne toutes les femmes et les filles dans le sport en général. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier aussi, tu sais, les hommes aussi, c'est les alliés. Donc, tu sais, il y a un beau mélange là, de tout ça là, dans cet organisme qui existe. Puis, en fait, Sylvie Béliveau, qui est la directrice générale des Galaxiens, c'est une ancienne coach que j'ai malheureusement pas eue, mais qui vient aussi de Sherbrooke, en fait.
Okay.
Donc, super intéressant. Je te suggère peut-être une autre entrevue
avec elle.
Beaucoup de bagages. Elle a travaillé avec la FIFA aussi. Donc, beau bagage, autant sportif que humain. Là. Donc, c'est vraiment... c'était une personne que je connaissais aussi à la base. Donc, le lien s'est fait quand même bien. Puis, les projets sont arrivés. Puis, ça a juste été un bon moment d'embarquer comme... peut-être facilitatrice, consultante là, dans les besoins qu'ils avaient. Là.
OK, bien super. Oui, effectivement, ouais. C'est vraiment dans mes plus grands intérêts et peut-être même dans les intérêts de la chaire. Donc, j'en prends bien note. Merci beaucoup.
Parfait.
C'était pas un nom avec lequel
vu
j'ai...
vient de
Sherbrooke
de la
en plus.
Région, ouais, exactement.
OK, wow. Et bon, Andréane, je vois le temps qui file. Alors, je terminerai avec quelques questions rapides sur les performances, en fait, des Roses de Montréal au cours de cette première saison. Toi, est-ce qu'il y avait des moments marquants qui t'avaient marqué sur le terrain cette saison?
Effectivement. Je pense que le match d'ouverture, il était historique, là, en fait, évidemment, le match qu'elles ont joué à Toronto était historique parce que c'est le premier match de la Ligue. Il y avait aussi plus de 14 000 spectateurs. Puis, évidemment, les Roses ont gagné 1-0. Donc, c'est bien parti. Mais le premier match, le 3 mai, là, au Stade Boréal, l'inauguration du stade, voir le stade plein. On avait fait aussi une présentation des pionnières, donc un peu de transmettre un peu le flambeau à la... je veux dire, nouvelle génération. Tout était bien, là, ficelé. Puis c'était très... Puis en plus, elles ont gagné encore. Donc, c'est très émotif, très... c'était comme un peu un travail accompli, mais on savait que la saison était longue. Puis, tu sais, il y a eu d'autres moments. On sait, là, une saison de soccer, c'est... Puis surtout, elle est longue d'avril à novembre. Il y a des hauts et des bas. Mais je pense que l'équipe en tant que telle a montré du caractère... Il y a eu des moments, des passes plus difficiles qui sont normales. Donc après, puis tu sais, vous les connaissez pas personnellement, mais le groupe de joueuses, tu sais, c'est vraiment des bonnes et belles personnes. Donc, puis ce qui est bien, c'est que le noyau revient pour l'année prochaine. Donc c'est ce sentiment-là d'appartenance qu'on doit conserver. C'est sûr que la qualification pour les séries, là, c'était un objectif. Là, donc, même si ça s'est moins bien terminé, c'était quand même un objectif. Puis, c'est sur quoi qu'on peut se baser, en fait, pour l'année prochaine. Donc, ça a été, c'est ça, des petits moments marquants ici et là, mais c'est sûr que le match inaugural va rester quand même... c'est ça, historique, ouais.
Somme toute, je crois que c'est une saison que vous pouvez regarder avec beaucoup de positifs. Comme tu as mentionné, vous avez terminé quatrième au classement, très, très près de la deuxième place. Oui. Là, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça vous a permis d'accéder aux séries éliminatoires ou est-ce que, bon, vous avez été malheureusement éliminé par Toronto, qui avait somme toute été la meilleure équipe de la saison régulière.
Ouais.
Vous avez fini avec le meilleur bilan défensif de la Ligue aussi, donc définitivement des beaux accomplissements là, sur lesquels vous allez pouvoir construire l'année prochaine. Et j'avais vu dans une autre entrevue que tu avais donnée que, bon, malgré tes antécédents d'entraîneuse, c'était pas vraiment une possibilité pour toi d'intégrer éventuellement le personnel entraîneur des Roses.
C'est pas, tu sais, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est ça, j'ai des discussions des fois avec Marnette, la directrice sportive. Puis tu sais, c'est agréable parce que c'est des échanges dans un cadre, oui, professionnel, mais aussi juste comme ça. Non, en tout cas, pas pour le moment. Avec, c'est ça, j'ai encore des jeunes enfants, puis le rôle que j'occupe, j'ai besoin... j'aime ça avoir le big picture un peu tu sais, la vision stratégique, de voir tous les départements. Donc, au lieu de me confiner peut-être juste au département sportif. Je ne crois pas. Écoute, on laisse les portes ouvertes, on ne sait pas dans 5-10 ans. Mais c'est sûr que des fois, je vais voir les entraînements quelques minutes, là, parce qu'évidemment, ils s'entraînent à chaque jour. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir, mais je pense qu'on a, du staff entièrement assez compétent là, pour occuper ces postes-là. Puis moi, ça me permet d'avoir une vision plus externe, mais aussi de pouvoir donner mon point de vue quand il est demandé sur des choses, pas sur des tactiques ou quoi que ce soit, mais sur comment l'organisation pourrait fonctionner ou qu'est-ce que je pense de certaines choses. Donc, pour le moment, ça me va bien.
Ouais. Bon, ce sont des raisons tout à fait justifiables, ouais. tout à fait compréhensibles. Et Andréane, je terminerai avec une dernière question. Toi qui as atteint le sommet du soccer québécois en remportant le championnat RSEQ en 2012 avec le Vert et Or, avec ce sport-là que t'aimes tant, qui t'a amené aux quatre coins du monde, au Chili, en Serbie, en Chine, est-ce qu'il y a des conseils et des leçons que tu as appris lors de ta carrière de joueuse qui te sont particulièrement utiles présentement, que ce soit autant dans ton rôle au sein des Roses de Montréal que dans ta vie personnelle?
Oui, beaucoup. En fait, le sport, ça amène des valeurs de la vie. C'est une école de la vie, là, on le dit souvent, mais c'est vraiment vrai. Ça te pousse à pousser tes limites, ça te met dans ta zone d'inconfort beaucoup plus souvent qu'on le pense. Mais c'est en sortant un peu de tout temps ces zones-là que tu te développes, puis que justement, on parlait du réseautage, on parlait, je pense qu'il y a beaucoup de persévérance aussi, il faut croire en son but, puis des fois les chemins sont un petit peu plus compliqués, mais il y a des blessures. C'est ça, moi j'ai dû prendre des entraîneurs privés à côté. Donc, je pense que c'est cette persévérance puis ce désir d'atteindre ses objectifs. Que moi je dirais aux plus jeunes, d'y croire le plus longtemps possible. Il y a différentes manières de l'atteindre. Puis maintenant, c'est sûr qu'avec la Super Ligue du Nord, si on parle juste du soccer, il y a quand même une sommité maintenant de dire mon objectif, ça serait de jouer là. À l'époque, c'était de jouer ce ping professionnel puis d'espérer d'être vu. Mais là, ça a quand même beaucoup changé. Puis ça fait pas si longtemps, on parle de peut-être 7 ans, là, mais. Le scouting au niveau vidéo, on reçoit beaucoup, nous, de montage de joueuses, mais à l'époque, c'était moins sollicité. Les recruteurs sont un peu partout. Il y a des événements, il y a des combines. Il y a plusieurs façons de se faire voir. Après, je pense que c'est aussi d'être bien entouré, là, d'avoir ses défis, d'avoir ses rêves, mais d'avoir quand même un plan par étape, puis d'avoir aussi un plan B. Si ça ne fonctionne pas, on fait quoi pour justement pas sombrer dans une période un petit peu plus difficile. Donc, ça serait un peu les conseils que je donnerais. La persévérance, sortir de sa zone de confort le plus souvent possible, ça va vous permettre de vraiment de grandir en fait en tant que personne. Puis le réseautage, dans le niveau professionnel, souvent je le dis aux jeunes, mais n'hésitez pas, vous savez pas les contacts que vous faites aujourd'hui, dans 10 ans vous allez peut-être en avoir besoin. Justement, je connais quelqu'un là-bas avec le vecteur, le sport, c'est un bon vecteur pour ça, là. Ça connecte des gens qu'autrement on n'aurait pas connecté. Donc voilà, c'est un peu ça.
Bien, je trouve que c'est une excellente note très positive et très encourageante sur laquelle on peut terminer cette entrevue. Andréane, je te remercie énormément pour ton temps. Ça a été des...
Merci à toi. Merci.
Ah, c'est tout le plaisir est pour moi. Ça fait super plaisir de pouvoir te reparler après les cours qu'on a eus au DESS. On n'avait pas eu la chance de se voir énormément en vrai, mais ça avait vraiment été un plaisir de vivre ce programme à tes côtés, de maintenant pouvoir voir que... Tout ton beau travail, que ce soit sur le terrain, sur les bancs de touche, au niveau administratif et même avec le diplôme en gouvernance antidopage, t'a mené à ce beau poste-là et que tu t'épanouis à travers de celui-ci.
Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Puis si vous avez besoin d'un autre entrevue, ça me fait plaisir.
c'est bien gentil, Andréane. Encore une fois, merci beaucoup. Je te souhaite la meilleure des continuations et à bientôt.
Parfait, merci. À bientôt.